Écoute, écoute, écoute.
C'est l'invité d'Écoute ta fac.
Écoute ta fac.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans à l'écoute de l'émission Écoute ta fac jusqu'à 13h. Donc comme je le disais en début d'émission, nous recevons aujourd'hui Anaïs Boyon pour la présentation de son livre Catégorie d'âme, le test de féminité dans les compétitions sportives. Une interview qui intervient dans le cadre de la semaine Aphrodite, les journées de l'égalité des sexes et des genres de Radio Campus Orléans et avec la journée internationale des droits des femmes le 8 mars prochain. Alors bonjour Anaïs.
Je sais pas si... Bonjour.
Merci donc d'avoir répondu présente pour cette interview aujourd'hui. Alors Anaïs Boyon, vous êtes professeure des universités à la faculté des sciences du sport et de l'université Paris-Saclay, mais aussi socio-historienne. Vous avez fait un doctorat en 2008 avec pour thème les discours médicaux et l'accès des femmes aux activités physiques et sportives entre 1880 et 1922. Et depuis 2012, vous publiez des articles et ouvrages scientifiques sur le corps, le sport et le genre. Alors, dans un premier temps, j'avais une première question avant de débuter sur vos différents travaux et ouvrages. Pourquoi avez-vous fait un doctorat sur ce thème de l'accès des femmes aux activités sportives et physiques? Est-ce que vous avez pu aussi diffuser cette thèse et pensez-vous qu'elle a eu un impact si vous avez eu des potentiels retours?
Merci pour votre question, elle est très originale et elle est rare en plus. On nous demande rarement, nous chercheurs, comment on est arrivé à travailler sur de tels sujets. Alors je pense que la première chose qu'il faut que je dise, c'est que je suis une ancienne athlète, coureuse de 800 mètres, ce qui a du sens par rapport à mes analyses scientifiques, ratée. C'est-à-dire que pendant 18 années, j'ai essayé de performer et de devenir coureuse de 800 mètres de haut niveau. Et malheureusement, je n'y suis pas parvenue. J'ai donc décidé de faire le deuil de ma carrière de sportive de haut niveau et j'ai découvert vers 17-18 ans que je pouvais faire des études dans le sport, à savoir intégrer STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives. Et un petit peu de déception, puisque je ne voulais pas théoriser le sport, mais le pratiquer à haut niveau. Je me suis inscrite en STAPS en 1999 à Paris Sud, à l'époque, l'Université Paris Sud, et je voulais être prof de PS. Très vite, je me suis aperçue que je n'étais pas faite pour être prof de PS, puisque moi, ce que je voulais chercher, de par mon enfance et mon adolescence, c'était la performance, le haut niveau, et pas le sport comme un facteur d'intégration, le sport pour tous, à des finalités de santé, etc. Et donc, j'ai découvert avec grand bonheur, en 2003, je crois, qu'on pouvait faire de la recherche en sciences et techniques des activités physiques et sportives, et notamment de la sociologie et de l'histoire. Et très vite, j'ai construit mes objets de recherche autour de ma passion, à savoir l'athlétisme, le sport de haut niveau. Et je me suis aperçue que j'ai découvert avec ma directrice de thèse à l'époque, enfin de master d'ailleurs, enfin même de maîtrise, parce que j'ai plus de 40 ans, qu'il y avait des contrôles de genre ou des tests de féminité. On y reviendra, je vais passer vite. Elle m'a demandé de travailler là-dessus et je me suis très vite aperçue de l'impact et du pouvoir des médecins, des discours médicaux dans l'accession des femmes aux activités physiques et sportives. Je vais vous prendre un exemple. J'ai commencé à travailler sur la difficile accession des femmes aux dernières disciplines athlétiques officiellement ouvertes pour elles, à savoir à l'époque le triple saut, le marteau et la perche. Et sur le terrain, quand je suis allée interroger les directeurs techniques nationaux, les entraîneurs, les athlètes, beaucoup d'arguments médicaux ressortaient. Betty Lise, qui a commencé le triple saut, une des pionnières du triple saut française, dans les années 1990, me disait que quand elle avait commencé le triple saut, en 1990, elle entendait que ça pouvait mettre en danger ses organes reproducteurs, qu'elle soit trop musclée et qu'elle éprouve des difficultés lors de l'accouchement, etc. La même chose pour Caroline Hamel, une pionnière de la perche française, qui me disait que lorsqu'elle avait commencé la perche, c'était interdit pour les femmes, il y avait des arguments médicaux qui ressortaient et qui disaient que ça pouvait mettre en danger les corps des femmes. Et donc ça m'a questionnée parce que tous et toutes, on est au courant ici par exemple, elles entendaient aussi le risque de descente d'organes avec de telles activités physiques. Mmh. Tout le monde sait qu'une triple sauteuse ou une sauteuse en longueur ou une perchiste ne risque pas la descente d'organes avec de telles activités. Et donc j'ai cherché à comprendre cette accession tardive et ses arguments, d'où ils venaient. Et j'ai donc décidé de faire un doctorat sur les origines des discours médicaux dans l'accession des femmes aux activités physiques et sportives. Et je me suis aperçue, en travaillant sur toute cette littérature scientifique, donc j'ai exploré plus de, d'une centaine de thèses de médecins de l'époque de 1880 à 1922, comme ça a été dit, qui travaillaient, enfin qui prescrivaient ou proscrivaient les activités physiques et sportives des femmes à l'époque. Et très vite, je me suis aperçue de l'immense pouvoir des discours médicaux, de physiologistes, de médecins, qui conditionnaient, déterminaient la mise en mouvement des corps des femmes. Voilà, vous m'arrêtez si je parle trop, parce que j'aurais énormément de choses à dire, et c'est comme ça que j'ai entamé mon doctorat, et j'ai découvert, par exemple, j'aime bien prendre cet exemple parce qu'il est extrêmement significatif, et il se retrouve encore dans une période contemporaine actuelle, fin 19e, début 20e, j'ai découvert une vingtaine de thèses de médecins qui ne voulaient pas que les femmes fassent de la bicyclette, de peur, que ça mette en danger leurs organes reproducteurs et qu'elles ne puissent plus régénérer la nation, renouveler les générations, si vous voulez. Et plus encore, les médecins de l'époque avaient très peur qu'elles s'adonnent à des pratiques masturbatoires avec le frottement des pédales, l'activité hein, en tant que telle. Et donc, ils avaient de fortes réticences à ce que les femmes accèdent à la bicyclette. Et si vous voulez, tous ces arguments médicaux, je passe vite, mais vont conditionner, déterminer l'accession des femmes aux activités physiques et sportives. Et parfois, on se pose la question de pourquoi pas de Tour de France des femmes aussi, ou alors aussi tardivement? Pourquoi si peu de médiatisation? Pourquoi les femmes excellent moins lorsqu'elles font du cyclisme, etc. Eh bien moi, j'ai retrouvé les origines des proscriptions, des interdits, des freins, qui permettent d'expliquer à quel point les femmes ont du retard dans leur accession à leur mise en mouvement.
Très bien, merci. Oui, effectivement, tous ces exemples, vous les avez cités, bah, notamment l'exemple de la bicyclette pour les femmes, vous l'avez cité bah, dans le livre qu'on va parler maintenant. En juin 2012, vous publiez donc votre propre ouvrage nommé « Le test de féminité dans les compétitions sportives, une histoire classée X », donc, que j'ai découvert personnellement lors de votre intervention aux États généraux du sport féminin à Bourges en janvier dernier, et votre ouvrage « Catégorie d'âme, le test de féminité dans les compétitions sportives » sur lequel nous allons nous intéresser aujourd'hui. Comme je vous le disais tout à l'heure, je me demandais d'abord si ces deux ouvrages, s'ils ont un rapport entre eux et ou s'ils se complètent, est-ce qu'il y a une différence entre les deux?
Alors non, c'est exactement le même ouvrage. J'ai publié donc le test de féminité dans les compétitions sportives, une histoire classée X en 2012. Et comme il a bien fonctionné, mon éditrice a décidé de le rééditer en 2015. Mais elle a volontairement changé le titre, alors que le contenu est exactement le même. Changé le titre parce que, avec ce jeu de mots, une histoire classée X, les libraires, les bibliothécaires avaient parfois des difficultés à le ranger dans les rayons et à le classer, et ne comprenaient pas vraiment à proprement parler, ne soupçonnaient pas le contenu du livre. Or, il n'est pas question d'aborder ce qui touche à la pornographie, par exemple, pas du tout. Et donc, elle a volontairement changé le titre. Elle l'a intitulé « Catégorie d'âme dans les compétitions sportives ». Les tests de féminité dans les compétitions sportives, voilà, « Catégorie d'âme ».
D'accord.
Alors, mais c'est exactement le même.
Très bien. Bah, c'est un peu plus clair, du coup. Pour le test de féminité, nous allons l'évoquer dans plusieurs questions de cette interview. Mais pour commencer, est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est un test de féminité et pourquoi a-t-il été créé? Existe-t-il aussi pour les hommes? Et pourquoi est-ce que c'est un sujet qui pose problème?
Il faut que je fasse c'est une très longue histoire, donc j'imagine qu'il faut que je fasse une réponse de radio un peu courte. C'est ça, hein?
Oui, le test de féminité en soi, puisqu'on va l'aborder un petit peu après avec votre livre.
Alors, comment je peux vous... Si vous voulez, dans les années 30, apparaissent des sportives qui présentent des morphologies et des records qui se rapprochent trop dangereusement des morphologies masculines et des records masculins. Ça effraie. On voit des femmes que l'on trouve trop musclées, trop viriles, trop poilues, sans hanches distinctes, sans poitrine, etc., et qui ne correspondent pas ou ne répondent pas aux critères normatifs de ce qu'on attend de la féminité. Et de la même façon, on s'aperçoit que les instances dirigeantes sportives, les médias s'aperçoivent que les femmes peuvent faire du sport dans une finalité compétitive et peuvent faire des performances assez impressionnantes. Et très vite, des soupçons vont être émis au sujet de ces sportives que l'on trouve, entre guillemets, hors normes. On va tout simplement les soupçonner d'être des hommes déguisés, de tricher, de vouloir se faire passer pour des femmes afin d'obtenir des médailles. Or, ça, c'est important, je pourrais le redire, mais ce n'est jamais arrivé dans l'histoire du sport. Et donc, pour lutter contre ces soupçons, pour lutter, ça c'est l'objectif affiché hein, par la Fédération internationale d'athlétisme en premier lieu, ils vont mettre en place, la Fédération internationale d'athlétisme pour la première fois, en 1966, au championnat d'Europe d'athlétisme de Budapest, des contrôles de sexe. On parle beaucoup de tests de féminité ou de contrôles de genre, or moi j'ai retrouvé dans les archives de la commission médicale du CIO qu'il est question de contrôle de sexe. Et c'est important parce qu'il ne faut pas confondre le sexe, la féminité, le genre, etc. On pourra y revenir. En quoi consiste-t-il? Eh bien, trois médecins gynécologues, qui en principe dans les règlements doivent être des femmes, mais ça ne sera pas toujours respecté parce qu'il est difficile de trouver des femmes gynécologues à l'époque dans le monde du sport. Trois médecins gynécologues font passer toutes les athlètes, femmes, nues, devant eux, et procèdent à un examen gynécologique. Donc ils regardent leurs organes génitaux pour s'assurer que ce sont bien, entre guillemets, de vraies femmes. Mais ils ne se contentent pas de cela, ils leur font passer des tests morphologiques. C'est-à-dire qu'ils leur font passer des tests de force, ils leur font souffler dans un spiromètre afin d'évaluer leur capacité respiratoire qui doit rester en deçà de celle dite des hommes. Et ils leur font presser dans une poire, une sorte de dynamomètre, pour évaluer leur puissance musculaire. Qu'est-ce qui est dit ici? On regarde le sexe anatomique, donc gynécologique, hein, morphologique, afin de s'assurer que ce sont des vraies femmes, mais ils ne se contentent pas ça. C'est-à-dire que pour définir ce que doit être autorisée une vraie femme, entre guillemets, pour concourir au sein des compétitions d'athlétisme, c'est une femme qui doit être indéniablement plus faible en termes de capacité musculaire et en termes de capacité respiratoire. Ça, c'est le premier test qui est instauré en 1966. Il va être jugé extrêmement humiliant. Vous allez avoir des jeunes femmes de 15-16 ans qui participent à cette compétition, qui n'ont jamais vu de gynécologue et qui ne comprennent pas ce qu'on leur impose, et que c'est d'une telle violence hein, sur le regard sur leur corps, et surtout de devoir leur dire si ce sont des vraies femmes ou pas des vraies femmes. Il va y avoir des contestations qui vont émaner également des instances dirigeantes sportives, hein, de fédérations, etc. Et donc, ils vont suspendre ce test. Mais au lieu d'arrêter ces tests qui sont tout simplement discriminants, inadmissibles, violents, j'ai pas les mots, humiliants, tout ce que vous voulez. Ils vont, en 1968, le CIO, donc le Comité international olympique, va décider de ne pas supprimer les tests, mais de changer de modalité. Et en 1968, pour la première fois aux Jeux olympiques de Mexico, et à chaque fois, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est Grenoble aux JO d'hiver, ils vont mettre en place un nouveau contrôle de sexe, mais cette fois-ci un test chromosomique, pour définir ce qu'est une vraie femme. Ils vont mettre ce qui s'appelle en place le test de corpuscule de Barre, donc ils vont prélever de la muqueuse buccale, enfin de la salive, afin de procéder à ce qui s'appelle, avec un coton-tige classique, afin de procéder à ce qui s'appelle un caryotype. Et donc ils partent du principe qu'une femme doit être chromosomiquement XX et un homme XY. Et pas de chance, ils vont s'apercevoir que... ils vont découvrir plutôt quelque chose qui existe depuis extrêmement longtemps, mais que le monde sportif ne semblait pas connaître, l'intersexuation. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des personnes intersexes. Les personnes intersexes sont nées avec des caractères sexuels, génitaux, gonadiques ou chromosomiques qui ne correspondent pas aux définitions et visions binaires type des corps masculins ou féminins. J'en donne un exemple. Avec le test de Barre, certaines femmes vont se révéler XXY ou XY. Et donc, leur sexe chromosomique ne correspond pas à leur caractère sexuel, par exemple, et ou génitaux. Donc, le monde du sport va être extrêmement déstabilisé. Suite à cela, si vous parveniez à réussir à remporter avec succès, je le dis volontairement, ironiquement, le test, les femmes obtenaient un certificat de féminité qui attestait qu'elles étaient bien, entre guillemets, des vraies femmes. Le problème, c'est qu'ils vont s'apercevoir que des femmes qui vont se révéler avec ce test XXY ou XY, que le Y ne fonctionne pas, donc ne leur confère pas un avantage physique significatif. C'est-à-dire que, je vais passer vite, mais le Y génère de la testostérone, des androgènes, etc., et les récepteurs ne l'assimilent pas et donc leurs taux hormonaux sont. Enfin, si vous voulez, le Y ne fonctionne pas, donc je passe vite parce que c'est très complexe, mais du coup, leur taux de testostérone ne leur confère pas un avantage physique significatif. Au lieu d'arrêter tout ça, le CIO va arrêter en 2000. En se donnant l'autorisation en cas de suspicion visuelle de l'imposer, mais la Fédération internationale d'athlétisme et le CIO vont le maintenir. Et en 91, au lieu de se dire que c'est très complexe de définir ce qu'est une vraie femme autorisée à concourir et qu'il faut prendre en compte les caractéristiques sexuelles, génitaux, gonadiques, chromosomiques, psychologiques et on le verra hormonaux, et que c'est une impossible définition, ils vont mettre en place en 91 le test, un nouveau test. Alors là, on est passé de test de féminité, contrôle de genre, etc. C'est le test PCR-SRY. Et au lieu de définir une vraie femme comme une femme qui a un deuxième X, ils vont chercher la présence du Y pour exclure. Or, la problématique n'est pas réglée, puisqu'avec ces tests-là, c'est exactement le même process. Ils prélèvent de la salive, avec un couteau-tige, ils procèdent à un karyotype pour regarder le sexe chromosomique des athlètes qui sont soumis à ce test. Ils vont s'apercevoir que le Y est encore là, en fait. Donc, il va y avoir énormément de contestations, je passe, de critiques, de découvertes, de l'inanité du projet à définir ce que doit être une vraie femme autorisée à concourir, de la complexité. Bien sûr, parallèlement, rien n'est fait pour les hommes. Hein. Les hommes sont soumis à des contrôles de dopage classiques, et les femmes ont ces contrôles de dopage et parallèlement ces contrôles de sexe, bref. Et donc, ils vont tout supprimer en 2000 pour les JO de Sydney, en se réservant hein, le droit, en cas de suspicion visuelle, d'imposer des tests malgré tout. Arrive le cas de Caster Semenya en 2009, au championnat du monde de Berlin d'athlétisme, où Caster Semenya sort totalement des critères normatifs de la féminité. On lui reproche d'avoir une voix trop grave, d'avoir des hanches gommées, d'avoir une pilosité anormalement abondante. Qu'est-ce qu'on lui reprochait d'autre ? Sa coiffure. J'ai même lu sur les réseaux sociaux que ça ne pouvait être un homme puisqu'elle s'appelle Caster et dans Caster, il y a castré. Des choses ahurissantes. Elle subit une véritable cabale et en plus, elle remporte la finale des championnats du monde d'athlétisme à Berlin en 1 minute, 55 secondes et 45 centièmes. Et donc, comme je vous l'ai dit, je suis une spécialiste et une fan du 800 mètres. Et donc, elle fait une performance incroyable à l'époque. Or, au lieu de louer son exploit et de se dire qu'enfin, on a une Usain Bolt au féminin, puisque c'est à ce moment-là qu'Usain Bolt performe également, on va tout de suite lui reprocher d'être un homme. Vous voulez que je continue ou j'arrête parce que c'est une longue histoire et...
Non, c'est très intéressant. D'ailleurs, j'allais y revenir parce que sur Caster Semenya, vous avez fait plusieurs interventions pour parler de cet athlète, notamment un podcast. Et vous êtes intervenu sur la chaîne TV5 Monde. Et puis, dans votre livre, en fait, vous dites quel est le point de départ de votre enquête. Donc, justement, j'allais revenir sur son cas. Justement, pourquoi Caster Semenya, le sujet dont elle fait débat et ce qu'elle a un lien avec votre livre, donc c'est totalement le sujet. Donc,
super. Donc voilà. Donc je continue.
Si vous voulez, et juste aussi donc, par rapport à Caster Semenya, donc, c'est totalement le sujet. Et puis même dans ce livre, vous expliquez l'histoire avec un grand H du sexe musculaire, le fait que les muscles fabriqueraient le sexe de la personne. Et vous nous rapportez, je cite, l'histoire sociale et politique du contrôle de féminité en vous appuyant sur des textes scientifiques et médicaux, des articles de presse, des entretiens avec des médecins du sport, mais aussi des témoignages d'athlètes ayant subi ces tests ou ces contrôles. Donc justement, même par rapport à Caster Semenya, est-ce que ça vous a été aussi difficile de récolter tous ces éléments puisque pour ma part, je n'avais pas du tout connaissance de ces tests de féminité. Et donc par rapport à votre ouvrage, est-ce que ça a été difficile d'avoir tous ces éléments ou c'était plutôt accessible ?
Alors il y a beaucoup de... Mais je vous remercie pour vos remarques, il y a beaucoup de choses auxquelles je dois répondre. La première chose, c'est, vous avez dit que c'était mon point de départ, Caster Semenya. Non, ce n'est pas du tout mon point de départ, en fait. Au contraire, c'est-à-dire que Caster Semenya a permis de mettre en lumière tout ce sur quoi je travaillais depuis 2003. Moi, j'ai fait ma maîtrise sur les contrôles de sexe, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, et j'ai découvert les contrôles de sexe. Et Semenya, en 2009, a ressorti avec son histoire ces contrôles de sexe, en fait. Donc, c'est, si vous voulez, c'est le deuxième point d'étape de mes recherches. on peut le dire comme ça. Alors oui, ça a été extrêmement complexe de rencontrer des médecins, des personnes qui ont pu mettre en place les tests de féminité, les contrôles de sexe. C'est très difficile de faire parler les personnes qui ont été de près ou de loin à l'initiative de ces tests. C'est très compliqué, et c'est d'autant plus compliqué de faire parler les personnes ou de les retrouver qui ont été exclues suite à des échecs à ces tests de féminité. Donc ça a été un travail de terrain extrêmement chronophage et extrêmement difficile. Mais bon, ça fait maintenant, je prends un coup de vieux, mais ça fait maintenant 20 ans que je travaille sur ces questions. Par exemple, je n'ai jamais pu rencontrer Caster Semenya ou l'interroger pour la simple et bonne raison que Caster Semenya refuse le fait d'être désignée comme une athlète intersexe et qu'elle aimerait qu'on lui fiche la paix. Et elle se sent femme, elle a été éduquée comme une femme et elle s'est toujours considérée comme une femme. Et c'est le monde du sport qui lui a dit: vous n'êtes pas une vraie femme. Et donc Caster Semenya, elle a envie, si vous voulez, de... Alors elle est interdite de concourir aujourd'hui, mais là je vais revenir à son histoire pour qu'on comprenne mieux la difficulté du terrain. Donc Semenya gagne ce 800 mètres et au lieu de louer son exploit, on lui fait passer toute une batterie de contrôles médicaux, des tests chromosomiques, sanguins, et on mesure ses hormones. Et apparaît, si vous voulez, dans l'histoire, moi je me suis aperçue qu'au départ, pour définir ce qu'était une vraie femme, on a défini la vraie femme par son sexe, souvenez-vous, gynécologique, visuel, apparent, en regardant le sexe des femmes avec des examens gynécologiques, et le sexe, la force. Et on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas définir ainsi une vraie femme. Ensuite, on est passé au sexe chromosomique. Et on s'est aperçu que c'était extrêmement complexe également, de par le nombre de variations et de différenciations chromosomiques. C'est, je crois, le chiffre qui est régulièrement donné, 1,728% de personnes intersexes. Donc, c'est près de 2%. Beaucoup aiment à dire qu'il y a autant de personnes intersexes que de personnes rousses, etc. etc. Donc, ce n'est pas anodin, en fait. Ce n'est pas quelque chose qui doit être, qui est extrêmement, comme on peut, alors c'est tabou, mais comme on peut souvent l'entendre, quelque chose qui ne mérite pas qu'on y porte de l'intérêt. Et donc, Caster Semenya est défini très vite par les instances dirigeantes sportives comme, et c'est un terme extrêmement à ne pas utiliser, comme hyperandrogène. C'est-à-dire qu'elle produit plus de testostérone que la moyenne autorisée, mais qui est une moyenne arbitraire. Et donc, c'est pour ça que je n'aime pas du tout le terme hyperandrogène, parce que c'est comme si vous étiez... grande et que je vous définissais comme hyper grande ou hyper grosse ou hyper petite, etc. etc. C'est des caractéristiques, car Caster Semenya, c'est très important de le dire, est née comme ainsi avec cette production hormonale. Et donc très vite va apparaître de nouveaux règlements. En 2011, la Fédération internationale d'athlétisme et la Fédération internationale de foot les mettent en place. Cela va être repris par le CIO en 2012 pour les JO de Londres, et ces règlements évaluent, contrôle ce que doit être une vraie femme, non plus avec le sexe chromosomique, le sexe apparent, etc., mais cette fois-ci avec des taux hormonaux. Et les femmes, pour pouvoir être considérées comme des vraies femmes, doivent produire moins de ou égal de 10 nanomoles par litre de sang de testostérone. Si elles ne souhaitent pas subir ce dopage à l'envers, si vous voulez, parce que, attention, la production de Caster Semenya et des autres est endogène, naturelle. Caster Semenya, comme je peux le voir ou le lire, ne triche pas. Elle est née ainsi. Et donc, on l'impose de réguler un soi-disant avantage physique. Rien ne prouve que la testostérone uniquement, exclusivement, permet d'exceller et de faire 1:45 aux 800 mètres. Rien, jamais. Et donc, on lui impose malgré tout de subir des traitements hormonaux pour réguler ses taux et les rabaisser. Caster Semenya va refuser. Des scientifiques comme Katrina Kakarsis et Rebecca Jordan-Young ont dit que ces traitements pouvaient engendrer des déficits en cortisol, des nausées, des vertiges, etc. etc. On régule un corps qui est sain et en bonne santé, mais qui est considéré comme hors norme. Et la problématique, c'est la testostérone. Les femmes, naturellement, n'ont pas le droit de produire plus de testostérone que la moyenne autorisée qui est arbitraire. Et vous allez comprendre pourquoi elle est arbitraire. du Tichand, d'une autre athlète indienne qui est aussi exclue pour les mêmes raisons, va porter plainte auprès du tribunal arbitral du sport en 2014. Elle va dire au tribunal, mais c'est injuste, j'ai une production hormonale naturelle, certes, qui dépasse la moyenne autorisée, mais comme une grande taille en saut en hauteur, comme une grande taille en basket, comme une élasticité incroyable dans certains sports, comme un rythme cardiaque qui bat lentement. Pourquoi moi, je n'ai pas le droit de concourir? Je suis femme, je suis née femme, j'ai le F sur mes cartes d'identité. Et donc, elle va gagner. Et le tribunal du sport, arbitral du sport, va demander à la Fédération internationale d'athlétisme de suspendre son règlement et d'apporter des preuves scientifiques qui attesteraient, enfin qui prouveraient que cette production hormonale de testostérone confère un avantage physique significatif.
Alors oui, justement, par rapport à ça, en milieu du livre, vous avez demandé aussi à des médecins la définition d'une vraie femme selon eux. Ils se sont alors accordés au début pour dire que c'est, je cite, quelqu'un qui a toutes les capacités à enfanter. Et puis ils ont prolongé leur réflexion en disant que les femmes sportives ont des qualités d'endurance, de pugnacité, de volonté. Et justement, comme vous disiez, pour vous, d'après toutes vos recherches, comment définiriez-vous la vraie femme dans le sport? En quelques minutes.
Alors, pour moi, je définis la vraie femme à partir du moment où je pense que c'est un faux débat et une fausse question. Toutes les femmes qui se sentent femmes et qui concourent chez les femmes sont des femmes. Pourquoi je vous dis ça? Puisqu'effectivement, tout au long de mon enquête, et c'était la base et mon point de départ, c'était définir ce qu'est une vraie femme autorisée à concourir. Et je me suis aperçue que c'était une définition impossible, puisque derrière, il y a une définition, comme je vous l'ai dit, chromosomique, hormonale, éthique, philosophique, sociale, politique, et j'en passe. Et donc, c'est un ensemble de composantes et de facteurs qui permet d'expliquer l'accès à la réussite sportive, mais c'est aussi un ensemble de composantes pour définir ce qu'est une vraie femme. Parfois, le sexe chromosomique ne correspond pas au sexe apparent, qui ne correspond pas au sexe hormonal, qui ne correspond pas au sexe psychologique, qui ne correspond pas au sexe gonadal. Tout n'est pas aligné. Donc, quand vous voulez définir ce qu'est une vraie femme, eh bien, c'est très compliqué. Et moi, naïvement, en 2003, pour moi, c'était un faux débat, une fausse question. Quand je suis arrivée sur le terrain, je me suis dit, mais c'est évident, une vraie femme, c'est quelqu'un qui a les capacités à enfanter. C'est évident. Donc, mon enquête va durer un mois. Je vais retourner voir ma directrice de master et lui dire, bon, ben voilà, c'est réglé. Or, sur le terrain, comme vous le dites à très juste titre, je me suis aperçue qu'en interrogeant des médecins, quels qu'ils soient, des gynécologues, des endocrinologues, etc., qu'ils étaient très embêtés quant à la définition de la vraie femme. Puisque certains me disent, effectivement, je le dis dans mon livre et je le raconte, et ça m'a beaucoup marqué, et beaucoup me l'ont dit, ils m'ont dit, résolument, vous avez raison. C'est en étant interrogée que je me rends compte qu'on ne peut pas définir la vraie femme par ses capacités de reproduction, puisqu'il y a des femmes qui ne peuvent pas enfanter, qui ne seront jamais en mesure d'enfanter. Il y a des femmes qui ont des ovaires polykystiques, il y a des femmes qui n'ont pas d'utérus, il y a une infinité de différenciations, il y a des femmes qui seront stériles toute leur vie. Il y a aussi, me disaient-ils certains médecins, femmes et hommes, des femmes ménopausées. Ça voudrait dire qu'elles sortent du champ des femmes. Une femme ménopausée n'est plus alors une vraie femme et ne sera plus autorisée à concourir. Et plus encore, les femmes qui ne souhaitent pas procréer et qui ne veulent pas procréer et qui ne procréeront jamais, où est-ce qu'on les range? Donc, très vite, on s'est rendu compte que c'était impossible de seulement définir une vraie femme par ses capacités reproductives. Je ne sais plus si je réponds à vos questions.
Non, mais c'était très bien. De toute façon, c'est un sujet qui est assez, assez complexe et qui fait beaucoup parler. Je voulais juste aussi revenir sur le fait que cet ouvrage est découpé en plusieurs parties. La première s'intitulant « Le spectre de la virilisation », traitant de ce sujet et retraçant aussi la genèse de la fabrique médicale des corps féminins. La deuxième partie axée plus sur l'histoire des tests, son origine et les problématiques générées. La troisième partie plus sur les actes décisionnaires des médecins du sport quant à définir ce qu'est une vraie femme, donc ce qu'on disait à l'instant, et où je cite une vraie femelle biologique. Et puis la dernière partie qui est consacrée à la suppression symbolique de ces tests depuis les Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Je voulais vous remercier, Anaïs Boyon, d'avoir vraiment participé et apporté tous vos détails. Donc on ne va malheureusement pas pouvoir avoir le temps d'aborder tous les détails du livre. Dites-moi.
Je peux juste finir quand même sur Caster Semenya, parce que c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Juste pour vous dire qu'aujourd'hui, ces femmes ne sont pas autorisées à concourir. Caster Semenya, Margaret Wambi, ils sont passés de 10 nanomoles par litre de sang de testostérone autorisé à 5, puis aujourd'hui ils s'interrogent sur 2,5 nanomoles par litre de sang. Et en fait, je voudrais quand même dire qu'elle attend la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Je suis absolument optimiste, pessimiste plutôt, j'aimerais être optimiste. Et par exemple, j'ai regardé les championnats d'Europe hier d'athlétisme, la course du 800 mètres. Oui. On voit une jeune femme qui excelle, qui est très devant, une Anglaise, une Britannique, une femme blanche. Personne ne s'interroge. Et moi, j'ai une très forte pensée. Alors, c'est les championnats d'Europe, elle n'aurait pas pu participer, mais j'ai une très forte pensée pour toutes ces athlètes. Elles sont extrêmement nombreuses. Et c'est des femmes non D'accord. occidentales, enfin voilà, qui n'ont pas le droit et qui ne sont pas autorisées à concourir aujourd'hui aux Jeux Olympiques et au sein des compétitions internationales d'athlétisme. D'accord. Voilà, je voulais quand même finir là-dessus parce que c'est très important
oui.
que
mais en effet.
On sache. Voilà.
Merci beaucoup, Anaïs. En tout
je
cas,
vous en prie.
Si vous êtes intéressé par le livre et souhaitez connaître tous les détails, il est disponible sur les sites de vente en ligne comme la FNAC ou sur Amazon sous l'édition X. Et si vous souhaitez réécouter ou écouter cette interview, vous pourrez la retrouver sur le site orléans.radiocampus.org dans l'émission Écoute ta fac du lundi 6 mars 2023.